la mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Amen. Qui a son vertu maître? Ceux qui ont leur vertu maître, m'a dit mesureur des vertus. Dans le livre de Pierre, il est dit que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et il va citer des éléments de la vertu, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, toutes ces choses. Comment est-ce qu'on peut faire des efforts si on ne sait pas évaluer la croissance qu'on a dans certains domaines de la vie? Est-ce qu'on peut venir enseigner ces choses-là et puis ne pas avoir quand même de petites choses pour s'évaluer, pour savoir si on s'approche de Dieu davantage ou pas? Amen. Et c'est là que j'ai prié, le Seigneur m'a inspiré cela. Ce n'est peut-être pas parfait maintenant. Ça va s'améliorer au fur et à mesure. Vous savez, si vous n'avez pas quelquefois des éléments pour mettre de mesurer certaines choses, vous ne vous rendez même pas compte quand vous commencez à faiblir. Vous ne vous rendez même pas compte que ça fait 3 jours que vous n'avez même pas lu votre Bible. Tu nous demandes de parler des vertus. Quand l'année va finir, comment est-ce que chacun pourrait évaluer que les enseignements ont porté du fruit? C'est la question que je me posais. Comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Amen. Alors vous voyez par exemple ce petit outil là. En fait, moi je ne l'ai jamais vu nulle part. Je n'ai pas pris ça dans une autre communauté, je n'ai pas pris ça dans une église. Je réfléchissais à trouver une solution à un problème donné. Je sentais dans mon cœur que c'était possible. Et puis paf, j'ai eu une idée. Amen. Et j'ai osé commencer quelque chose de nouveau. Dis-nous oui, quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Ça, c'est de l'audace. Essayez quelque chose qu'on n'a jamais fait. Alléluia. L'audace. Si vous n'avez pas de l'audace, vous ne ferez pas d'exploit. Amen. Amen. Alléluia. Alors la question à laquelle nous sommes en train de répondre aujourd'hui, en ce qui concerne l'enseignement sur l'audace divine, c'est de savoir, mais comment ça marche? Comment est-ce qu'on arrive à être innovant, à apporter des choses qu'on n'a jamais apportées, à faire quelque chose de plus? Alléluia. Parce que le monde a besoin de ce que Dieu a déposé en vous, de votre don, de votre talent. Vous savez, je ne suis pas aussi créatif dans les autres domaines, mais dans le domaine de la parole et de l'enseignement, j'ai tout le temps de nouvelles idées. Tout le temps de nouvelles idées. Pourquoi? Parce que je suis dans mon domaine et je travaille mon don. Et dans le don que Dieu m'a donné, j'ai de l'audace. J'essaie des choses. Il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Des fois, ça ne marche pas. Alléluia. Mais Dieu veut qu'on soit créatif, qu'on essaie. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler. Parce que si vous n'osez pas, si vous n'avez pas de l'audace, il y a des choses que vous ne verrez pas avec Dieu. Dis avec moi l'audace divine. L'audace divine. Alléluia. On a dit ceci. Soyez audacieux si vous voulez avoir du succès. Je vais vous poser une question qui est tellement banale. Qui a envie d'avoir du succès et de la réussite dans sa vie? Nous tous. Personne n'a envie d'échouer. Personne n'a envie d'échouer. Vous voulez avoir du succès? Ayez de l'audace. Si vous n'osez pas quelque chose de différent, si vous n'osez pas, vous ne connaîtrez pas de succès. Il n'y a pas à célébrer une personne qui arrive à marcher du rond-point de l'hôtel, du rond-point là, Saint-Jean, jusqu'à ici. Est-ce que c'est extraordinaire ça? Est-ce qu'on peut acclamer quelqu'un? Tu es arrivé à l'hôtel communal, félicitations. Pourquoi? Parce que c'est ordinaire de marcher. Là, la raison pour laquelle on va acclamer, on va célébrer Dieu, c'est lorsqu'il y a quelque chose d'inouï, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas encore vu. C'est en ce moment-là qu'il y a une lumière qui jaillit de vous et que les personnes portent le regard sur vous. Excusez-moi, vous pensez que pourquoi vous appréciez les joueurs de football et vous les regardez à la télévision? Ce n'est pas à cause de leur visage, ce n'est pas à cause de leur nom, mais c'est à cause de leur don. C'est parce qu'ils font quelque chose que les autres ne sont pas capables de faire, que les personnes ne font pas. Et il y a un domaine comme ça dans votre vie, je ne sais pas lequel, mais qui va vous ouvrir des portes. Alléluia. La Bible dit ceci, à tes résolutions ou bien à ta décision. La décision, c'est un acte d'audace. Décider quelque chose, pas à tes hésitations. Il est dit, Job chapitre 22, verset 28, aux décisions que tu prendras, répondra le succès. et sur tous tes sentiers et sur tous les chemins brillera la lumière. La lumière qui est en toi ne va briller que par rapport aux décisions que tu vas prendre. Tu veux connaître le succès? Job 22, 28 dit, prends des décisions. Prends des décisions. Décide de faire des choses. Il y a un temps pour suivre les décisions d'autres personnes, mais il y a un moment où tu dois prendre des décisions importantes. Le succès, selon Job 22, 28, vient des décisions. Comprends. Daniel décide de ne pas se souiller avec les mets qui sortaient de la table du roi. C'est une décision, c'est de l'audace. Alléluia. Et Dieu lui a ouvert les portes. Prenez des décisions si vous voulez connaître le succès. Si vous ne voulez pas avoir de succès dans la vie, si vous ne voulez pas réussir, ne décidez rien. La meilleure façon d'échouer, c'est de ne rien décider. Alléluia. La meilleure façon d'échouer, c'est que si tu vas échouer, si tu ne décides rien, là même, tu es déjà dans l'échec. Amen. Deuxièmement, ayez de l'audace pour voir et vivre des miracles. Tout le monde a envie de voir des choses extraordinaires. Mes amis, comment vous voulez que les hommes puissent croire en notre Dieu dont nous parlons si tout ce que nous produisons, ils sont capables aussi pareillement de produire les mêmes choses? En quoi est-ce que Dieu est différent? La façon dont nous attirons les personnes aujourd'hui à croire en Jésus, c'est juste que peut-être nous présentons une autre sagesse, une autre façon de voir le monde qui peut paraître supérieur, mais tout ça c'est à discuter, c'est discutable. Ce qui montre que Dieu est avec nous, c'est les prodiges, les miracles, les choses qui sortent de l'ordinaire. Or, il n'y a pas de miracle sans audace. Amen. Prenez votre Bible attentivement, vous allez vous rendre compte. Les hommes ont toujours provoqué Dieu, ils ont toujours fait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Dis Amen avec moi. Alléluia. Marc chapitre 2 à partir du verset 1. On dit... Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Regardez bien à partir du verset 3. On dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison. Ça veut dire qu'ils sont montés sur le toit de Jésus. Ils ont découvert le toit, ils ont levé les pailles là. Amen. Ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais ces gars-là, ils ont été audacieux. Hein? Jésus est en train de prêcher, il y a une grande foule, il enseigne la parole. Quatre messieurs arrivent, ils arrivent, il y a une grande foule. La majorité des personnes, beaucoup d'entre nous, seraient restés assis pour dire, attendons, peut-être que Jésus aura pitié de nous, en passant par là. Et ils disent, non, il y a trop de personnes, il faut qu'on tente quelque chose. Pendant que tout le monde était tranquillement dans la salle, ils ont grimpé par quelque part sur le toit. Donc Jésus est en train de parler, Jésus est en train de prêcher, on entend un bruit sur le toit. Et on voit là-bas. Un coup, subitement, la toiture est enlevée. Elle dit, Jésus est là. Et puis ils ont choisi où ils devaient enlever là. Parce que la maison a une certaine quand même surface. Hein. Et donc, les gars, si on descend par ici, est-ce que là, Jésus est à côté de ce côté? Ils disent non, avançons un peu. Il y a un qui a dû regarder, faire le calcul, tout ça. On dit, ouais, là, on sait que c'est lui. Jésus parle. Le toit s'ouvre. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué la prédication. Et on voit un malade qui descend sous une couverture. Et donc les gens font descendre la corde. Descendons-le. Et puis le malade apparaît devant Jésus. Tellement. Vous savez, ça c'est de l'audace. Et. Non mais les gars sont courageux. Alléluia. Quand Jésus a vu ça, il regarde le jeune. Il dit, tous tes péchés sont pardonnés. Mes amis, le monsieur ne s'est pas repenti. Vous avez vu le passage, non? Il n'a pas dit, Père, je reconnais que j'ai péché contre toi. C'est la raison pour laquelle je suis malade. Parce que je crois que si Jésus lui a pardonné ses péchés avant de le faire marcher, c'est que sa maladie avait quelque part un lien avec ses péchés. Mais quand Jésus l'a vu apparaître, casser son toit, parce que c'était la maison de Jésus, hein, C'est la maison de Jésus. Cassez le toit. Apparaître devant le Christ. Il dit, je ne sais pas ce que tu as fait dans la vie. Mais à l'instant. Tous tes péchés sont pardonnés. La foule était choquée. Et puis, Jésus dit, pourquoi vous sachez que j'ai le pouvoir de pardonner? À l'instant, j'ai dit, lève-toi et marche. Va-t'en. Le monsieur a pris son lit, il est parti. Beaucoup d'entre nous, les timides, ceux qui ont honte, seraient restés dans la foule. Il y avait la foule. Dans la foule, il y avait des personnes qui avaient des difficultés, qui avaient des problèmes. Eux, ils sont arrivés en dernière position, ils ont cassé le toit pour voir Jésus. Les autres étaient assis, tranquillement. Si tu marches, qu'est-ce que les gens vont dire? Attention. Tu arrives en retard. Si tu avances, eux, ils n'ont pas réfléchi à tout ça. Ils avaient un objectif. Si vous n'avez pas de l'audace, il y a des choses que vous ne verrez jamais. Vous regardez la foule, vous regardez les personnes qui sont autour de vous. Mais il faut que vous osiez faire certaines choses que les hommes ne font pas pour bénéficier de miracles et de choses qu'ils n'ont pas. Alléluia! Si tu as une situation, ne change pas, c'est sûrement qu'il y a une chose que tu n'as pas encore faite. Amen. Et ça, c'est l'audace. Pour voir des miracles dans votre vie, pour voir des choses extraordinaires se produire dans votre vie, il faut de l'audace. Il faut oser. Il faut faire quelque chose de différent. Il faut prendre une décision. Il faut être ferme là-dessus, aller jusqu'au bout. Tenter quelque chose qu'on n'a jamais essayé. Alléluia. Prenez le temps de lire toute votre Bible et de lire les miracles. Vous allez voir que tous les miracles, c'est de l'audace. Bartimée, la foule en train de passer avec Jésus. Il est aveugle. Il demande aux gens, qui passe? On dit, c'est Jésus, fils de David. Il sait que Jésus guérit. Est-ce qu'il va le laisser partir? Donc il se lève. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On dit, toi aveugle, là, tais-toi ici. Le monsieur, tu connais Jésus? C'est un boss. Tu vois la foule, tais-toi. On dit, plus les gens parlaient, plus ils criaient. Jésus! Parce qu'à force de mendier, il devait avoir une grosse voix. Parce que pour interpeller les gens, donc, eux, ils voulaient faire taire sa voix, mais ils ne savaient pas que c'est un expert. Le monsieur qui est mendiant depuis des années, tu sais comment il crie? Donc, plus il criait, il dit, vous n'avez rien vu. Tout ce que j'ai sur la terre, là, c'est ma voix. Je n'ai pas les yeux, je ne sais pas comment je vais marcher, mais je peux crier. Je vais crier. Donc on dit, tais-toi. On dit, il criait plus fort. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus continuait son chemin. Il a crié encore. Jésus a freiné. Et ses yeux sont ouverts. S'il n'avait pas osé, il serait resté aveugle. Jusqu'à quand continuerez-vous à porter des maux, des douleurs et des souffrances à cause de votre manque d'initiative et de votre peur de tenter des choses nouvelles? Arrêtez d'être là, attendre que Jésus passe par là. Quand il va, quand, à quel moment il va passer pour se venir de toi? Si tu étais plus assis, et dans l'heure qu'ils allaient prier, j'espère que Jésus va me voir. J'espère que Jésus va me voir. Il paraît qu'il est bon, qu'il aime les aveugles. Et puis ils allaient rester là tranquillement. Le monsieur a constaté que Jésus passait et on ne le regardait pas. Il dit non. Il ne veut pas continuer. Jésus, je suis là. Quand Jésus lui a dit, viens, la Bible dit, le gars a sauté d'un bond. Il s'est retrouvé devant Jésus. Mes amis, il faut oser dans la vie. Vous ne connaîtrez pas des choses extraordinaires. Vous ne verrez pas certaines situations opiniâtres changer. Si vous n'avez pas la force de tenter quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui sort de l'ordinaire, si vous n'avez pas l'audace. Alléluia. Vous avez un don et vous ne pourrez pas manifester votre don. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas de l'audace. Vous savez, le don, c'est ce que Dieu vous donne. Et c'est votre don, j'ai lu le passage tout à l'heure, c'est votre don qui vous fait de la place, c'est votre don qui vous conduit à manifester votre règne. Le don. Les dons, ce sont les talents. Les dons et les talents, les capacités que Dieu vous a données. Le Seigneur m'a donné beaucoup de dons. J'avais le don de la prophétie. Je pense que je l'ai toujours. Mais je crois qu'il aurait pu mieux se développer si je n'avais pas laissé la timidité me détruire. La honte. J'ai un don de guérison des malades. Très puissant. Oui, oui. Mais je n'ai pas exercé. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai prié pour un paralytique. Et il n'a pas marché. Et la foule m'avait entouré avec des amis. J'ai honte depuis ce temps. Pour prier, j'amène les gens en cachette. Viens, on va prier. Si ça n'a pas marché, personne ne va parler. Si ça a marché aussi, gloire à Dieu. Il n'y a pas de miracle, ça ne marche pas comme ça. Parce que au carrefour, j'ai échoué, le paralytique était là. Pendant 3 jours de jeûne, sec, sans manger, sans boire, avec des amis, on a attrapé le paralytique. Lève-toi, lève-toi. Il ne s'est pas levé. La foule est venue autour de nous. On dit, il va marcher. Non, on dit oui. Jusqu'à on a fatigué le pauvre. Tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Nous, on a la foi. Lève-toi, lève-toi. 3 jours, André, 4 jours même, il n'a pas marché. Et ça te traumatise, ça. Tu demandes à Dieu, mais pourquoi? Or, si votre don, votre talent est utile pour l'humanité. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Il dit ceci, 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Il dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Timothée avait reçu un don de Dieu. Mais le don s'était endormi, s'était éteint. Toi aussi, tu as un don, tu as un savoir-faire. Tu as une capacité unique, une compétence inouïe dans un domaine donné. C'est ce qui fait ta différence. Mais Timothée aussi avait reçu un don de la part de Dieu. La Bible dit, Paul dit, ce don-là s'est éteint, il dormait. Paul lui dit, je t'exhorte, mon fils, ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Oui, mes amis, la timidité tue votre don. C'est la honte. Les candidats-on. Combien, moi, voilà, ce don des miracles, le don de prophétie, ces choses-là sont éteintes. Ton savoir-faire, dans la musique. Parce qu'une fois tu t'es levé, Dieu t'a inspiré pour que tu sois chante. Tu t'es levé une fois, tu voulais chanter. Alléluia. On dit, oh crapaud. Tais-toi. Tu es traumatisé. Et la timidité a fait que ton don est mort. Dieu t'exhorte à ranimer le don de Dieu. La timidité, c'est ce qui vient paralyser votre audace. On ne peut plus essayer parce qu'on a honte, parce qu'on a peur. Comment les gens vont me regarder? La fois dernière, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Or, quand tu prives, quand tu ne manifestes pas ton don, tu prives l'humanité de choses extraordinaires. Vous savez, moi, je suis géomètre de formation. Alléluia. Je suis géomètre. Mais ce n'est pas le géomètre qui m'a ouvert les portes. C'est le don. Les gens ne vont pas regarder votre visage. Il y en a beaucoup d'hommes comme ça. Vous êtes unique. On le voit. Mais c'est la manifestation de votre don qui va vous conduire au sommet. Si la honte, la timidité, les quand dira-t-on, fait en sorte que vous tuez votre don, vous tuez votre destin, vous privez l'humanité d'une solution inouïe, extraordinaire. C'est un crime de laisser la timidité détruire ce que Dieu a déposé en vous. Vous voulez savoir si on va vous critiquer? On va vous critiquer. Vous voulez savoir si on va vous rejeter? On va vous rejeter. Vous voulez savoir si on va pas... La première fois quand vous allez manifester vos dons, est-ce que les gens vont apprécier? Non. Pourquoi Timothée a laissé tuer son don? Parce qu'il a été intimidé. Il a bien été intimidé par quelque chose. Il avait reçu un don. Il y a bien quelque chose qui l'a rendu timide. Il y a bien quelque chose qui a amené Timothée à dire, oh, ce don-là, apparemment ça gêne. Je vais le cacher. Paul dit, ranime le don. Ce n'est pas un esprit de timidité. Dis à un voisin, arrête d'être timide là. L'humanité a besoin de toi. Il y a des chants que tu devais composer qui allaient changer toute cette nation. Mais à cause de la timidité, tu ne chantes plus. Parce qu'on a dit que tu chantes mal. Mais il faut qu'on dise que tu chantes mal pour que tu chantes mieux. Mais ce n'est pas dire que tu vas... Il y a bien une raison qui est timide quand même. Ou bien pour rien comme ça, il s'est levé, il a manifesté le don. Et puis subitement, la timidité a fait qu'il est arrêté. Non. Parce que quand il a dû manifester ça pour la première fois, on regardait avec de gros yeux. C'est quoi? Timothée dit, non, les hommes ne se sont pas disposés pour mon don. Je vais rentrer dans mon coin. C'est un péché. Miles Monroe dit ceci, que les cimetières sont les endroits les plus riches au monde. Parce qu'au cimetière, il y a des chants qu'on aurait dû chanter qui n'ont pas été chantés. Il y a des livres qu'on devait écrire qui sont enfouis là-bas. Des hommes et des femmes qui sont morts avec le génie, l'intelligence extraordinaire que Dieu leur avait donnée. Car tu es forcément intelligent. Car il y a des choses en toi dont l'humanité a besoin. Mais la timidité, la honte, le désir d'être conforme à tout le monde, de faire comme tous les autres, le manque d'audace t'a tué. Tu as voulu être conforme, être comme tout le monde, marcher dans la foule. Parce que tout ce qu'on va montrer qui sort de la foule, qui te rend différent, fait peur. La timidité en train de réduire à néant un géant comme toi. Un expert dans un domaine. Quelqu'un qui allait changer ce monde. Dis à un voisin, aie de l'audace. L'audace va vous permettre d'entrer en possession de votre territoire. Alléluia. On avait lu cela la dernière fois aussi dans Nombre chapitre 13. Israël arrive devant des géants. Deux personnes sont audacieuses. Elles disent, on peut y aller. 10 autres disent non. Et tout Israël les a suivis en pleurant. Ils ont vu des géants. Ils ont été intimidés. On verra cela plus tard. Je vais revenir sur ces passages. En Nombre 13 jusqu'à 14. À cause du fait d'avoir été intimidés, à cause de leur peur, Israël n'est pas entré dans la terre promise. La première génération qui est sortie d'Égypte n'est pas entrée dans la terre promise. Ce qui leur a manqué, c'est l'audace. L'audace. Il y a un territoire qui est pour toi, un domaine. Mais par peur, par timidité, tu n'y entres pas. Tu manques d'audace. Dis à un voisin, ose. Aujourd'hui, on va apprendre comment ça fonctionne. Comment on fait pour ne plus être peureux. Ça marche. Amen. Alléluia. L'audace vous fait entrer dans votre règne. Je vous ai dit la dernière fois que Jésus n'était pas un religieux, c'était un politicien. Vous avez compris de quoi je parlais, non? Je ne parle pas de la politique de ce monde. Car on a demandé à Christ, mais où est ton royaume? Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Notre politique, la politique des enfants de Dieu, est différente de celle du monde. Jésus était le roi des Juifs. Une fois, j'expliquerai cela. Parce qu'il y a une différence lorsqu'il dit, il est le roi des Juifs, et puis après, Christ passe à la dimension du roi des rois. Juste un mot là-dessus, ça veut dire quoi? Jésus était le roi des Juifs. Pas en concurrence avec les Pilates et les Hérodes. Mais il était le roi dans le sens qu'il faisait de la politique du royaume. Il pourvoyait aux besoins des pauvres. Il aidait les personnes. Il guérissait les malades au milieu du peuple juif. Il se souvenait d'eux. Leur situation les intéressait. Le problème de la religion, c'est que la religion, elle prépare seulement les hommes à aller au ciel. C'est pourquoi Jésus n'est pas un religieux. Je vous ai dit le dimanche dernier, les hommes ont voulu le cataloguer, le limiter à un thème de prophète. On dit, qui vous pensez que je suis? Les gens disent, tu es un prophète. Il dit, je ne suis pas comme ça. Et Pierre, que penses-tu? Pierre dit, tu es le Messie. Messie, ça veut dire roi, le roi ouin. Jésus dit, voilà, ça c'est Dieu qui t'a révélé cela. Ne me limitez pas Dieu. Jésus-Christ a un thème de prophète. Tous les domaines l'intéressent. Mais dans quel sens? Pas simplement de dire aux personnes, venez me soutenir, je vais être député, je vais être maire. Non! Dans le sens du service, des dons que vous mettez au service des autres, de ce que Dieu a déposé en vous. C'est ce que Dieu appelle un leader. Lorsque votre don atteint son paroxysme, qu'il sert le maximum des personnes, les hommes reconnaissent en vous. Les hommes viennent vers vous. Les hommes vous écoutent. Comment voulez-vous que les personnes croient dans le Seigneur si nous ne produisons pas, si nous n'amenons pas nos dons divers dans leur manifestation la plus totale. Je le dis chaque fois, arrêtons de penser que les dons se limitent aux dons spirituels qu'on cite dans le livre de Corinthiens. Il y a les talents dans tous les domaines, dans l'agronomie, dans toutes ces choses-là. Laissez Dieu manifester cela en vous. Alléluia. Le don. La Bible dit quoi en ce qui concerne les dons? Car je dis, ayez de l'audace pour entrer dans votre règne. Proverbe 18, verset 16. Dis avec moi, le don d'un homme lui fait place et l'introduit devant les grands. J'aime ce passage. Ça veut dire ton don, là, le don que par manque d'audace, tu es vu de manifester, de faire sortir. Là. C'est ce don-là qui va ouvrir la porte de la manifestation de ton règne. Car la Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 5, verset 10, le passage suivant. Il dit ceci. Car tu as fait d'eux, ça veut dire de nous les croyants, un peuple de rois. Nous sommes tous des rois et des prêtres au service de notre Dieu. Et nous régnerons où ça? Où? Est-ce qu'on a dit on va régner au paradis? Le paradis, tel que vous le pensez dans votre esprit, c'est une zone transitoire. Le vrai paradis, ce sera sur la terre. Paradis définitif, quoi. Et on va régner. C'est pourquoi le Seigneur disait à cette personne-là, parce que tu étais fidèle en peu de choses, je te donne le gouvernement de 10 villes. 10 villes. Et Alléluia. Parce que tu as été fidèle dans ce que je t'ai donné. Amen. Dieu nous bénit. Dieu nous donne des dons pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je disais tout à l'heure que je suis géomètre de formation. Mais géomètre là, ce n'est pas mon don. C'est un métier que j'ai appris. Je vous ai appris la fidélité, n'est-ce pas? J'ai été fidèle à ce métier. J'ai travaillé dans une entreprise, j'ai été fidèle. Et pendant que j'étais fidèle à mon patron qui m'avait embauché, ça a ouvert la porte moi-même pour commencer mon ministère de prédicateur. Aujourd'hui, mes amis, je ne dis pas cela pour me vanter ou quoi. Quand je vais à l'étranger, les personnes m'appellent aux États-Unis, en Europe, dans tous les pays. Vous pensez qu'on m'appelle parce que je suis géomètre? Attends, est-ce que vous venez ici pour voir un géomètre? La Bible dit, ton don va te faire la place. Ce n'est pas ton métier. Il y a une place qui est pour toi, mais c'est ton don qui va t'ouvrir. Pourquoi les personnes m'appellent? Pasteur, on veut te voir aux États-Unis. Je dis, comment? On paye ton billet. Je dis, oh pasteur, je dis, frère, j'ai trop voyagé, je suis fatigué. On dit, non, on te met même business. En business class. Je dis, franchement, il faut que tu viennes. Vous pensez que c'est un visage de géomètre qu'il cherche? C'est le don. Si vous ne manifestez pas vos dons, vous n'irez jamais à la place qui vous est destinée. On ne va pas vous acclamer pour votre simple métier que vous faites quand vous êtes au commun à tout le monde. Mes amis, même dans l'administration, pourquoi toi, on va te choisir? Pose-toi la question pendant que tu es couturière ou bien tu es maçon. Pourquoi tu monteras à la place des grands? Pourquoi? Il y a trop de maçons. C'est lorsque même dans la maçonnerie, ton don va faire la différence. Parce que le don, il est unique. L'école de maçonnerie, c'est pareil pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui va intervenir dans l'architecture que tu fais? Dans le commerce que tu fais? Si c'est là ton territoire, c'est ton don qui va faire la différence. C'est lui qui va t'introduire, qui va t'ouvrir les portes. C'est lui qui va te faire de la place. La Bible dit, le don d'un homme lui fait la place. Il y a une place qui est pour toi. Quand on ne manifeste pas ton don, tu es dans un endroit... Quand tu ne manifestes pas ton don, tu es dans les bouchons, dans les embouteillages de la vie. Il n'y a pas de place, mon frère. Il n'y a pas de place. Tu veux faire la couture? Il n'y a pas de place. Il y a trop de couturiers à Abidjan. Dieu dit, ce n'est pas l'école de couture que tu as fait là, qui va te faire la place. C'est ton don. C'est-à-dire quoi? Si ton don est dans le domaine de la couture, c'est celui-là. Quand tu vas l'exercer, c'est lui qui va te faire de la place. Vous pensez que vous aimez Didier Drogba parce qu'il s'appelle Didier Drogba? C'est son don qui fait que vous êtes là. Drogba, Drogba. Son don, ce que Dieu lui a donné, il sait jouer au ballon. Mais il le savait depuis tout le temps. Il l'a exercé, il l'a développé, il l'a perfectionné. Toi, tu n'es pas footballeur, mais tu as un autre don. Je ne sais pas lequel. Mais c'est lui qui va t'ouvrir les portes. Ton don. Sinon, moi aussi, je suis géomètre. Est-ce que vous venez ici? Vous vous en foutez même de mon géomètre, là? J'ai jamais vu même un frère s'élever parce que j'ai appris que tu es géomètre. Est-ce que tu ne peux pas me faire un lever topographique? Non. Quand vous venez me voir, pasteur, explique-moi la parole. J'avais un don. Le don de la parole. Alléluia. Le don de parler de Dieu. C'est la grâce qu'il m'a faite. C'est ce qui m'a ouvert les portes. Quelqu'un est-il avec moi? Mais vous savez, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que le don sera critiqué? Oui. Dans la prédication, Dieu m'a dit d'aller évangéliser. Donc, je sortais déjà pour parler de Dieu aux hommes. Et j'ai été intimidé. Je voulais faire comme mon pasteur. En évangélisant, mon pasteur, à l'époque, quand il prêchait, il tirait un peu sur les mots. Là. Ça veut dire, Jésus, si tu crois, la foi, voilà comme ça. Je trouvais ça que c'était beau. Et puis j'écoutais ça tout le temps. Alors je voulais évangéliser aussi comme ça. Donc je tombe sur un païen là. Il est mort pour toi à la croix. Le païen est calme. Il me regarde et puis il me dit, pourquoi tu parles comme ça? Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais ce que tu veux me dire là, Tu as besoin de... Maman, je me suis assis, j'ai réfléchi. J'ai vu qu'il avait raison. J'ai dit, oh, j'ai eu honte. Mais quand même, je n'ai pas arrêté de parler de Dieu. J'ai juste amélioré ma façon de parler de Dieu. Vous recevrez dans la vie des chocs comme ça quand vous manifesterez votre don. Mais si vous laissez l'intimidation vous atteindre, vous allez tuer votre propre don. Et vous allez priver l'humanité de ce que Dieu vous a donné. Si ce monsieur-là m'avait intimidé, quand j'ai parlé la première fois, quand je me suis levé la première fois que j'ai parlé, on s'est tous plaints de moi, on m'a dit que tu parles trop vite. Et je me disais, Seigneur, je ne peux pas parler. Parce que je parle trop vite. On ne va rien comprendre. J'ai l'impression que je parle toujours un peu vite. Mais quand même, les gens entendent. Non, moi-même, je sais que... Je vous dis, hein, je parle vite. Mais c'est l'onction qui ralentit les paroles et qui les amène à une certaine vitesse dans vos oreilles. Si le Saint-Esprit se retire de moi, ma langue va tourner comme avant. Oui. Alléluia. Alléluia. Si vous n'osez pas, si vous ne commencez pas, vous n'allez pas laisser déployer votre don. Vous ne manifesterez pas le règne dont il est question. Jésus a dit, il a fait de toi un roi. Mais le roi, l'administrateur, celui qui va aider les hommes, tu n'y arrives, tu ne le vois véritablement que dans la manifestation de tes dons. Or, le manque d'audace tue le don. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, fais comme ça. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est... Et c'est ce que je vais insister encore. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça marche? Pourquoi il y a des personnes qui ont de l'audace? Il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Pourquoi l'audace divine? Comment, pourquoi j'ai des idées qui me viennent vers tu maître, les 12 tribus, manager l'église par les 12 tribus? D'où viennent ces idées-là? Quand Dieu m'a demandé la première fois d'enseigner sur la famille, sur le foyer, je n'avais jamais enseigné là-dessus. Je me suis juste lancé par la foi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? En fait, je ne suis pas le seul, je dis ça. Mais pour toutes les personnes qui manifestent leur potentiel, comment ça fonctionne dans leur esprit? Amen. Alors, j'ai noté, je crois par l'Esprit de Dieu, 16 manières de penser pour développer en vous l'audace divine. 16 manières de penser pour développer en vous l'audace divine. Tu dois oser pour sortir de ta situation. Tu dois prendre une décision pour voir un prodige, pour voir un miracle. Tu as besoin d'un miracle là où tu es. Tu as besoin d'une action particulière de Dieu là où tu es. Si tu n'es pas audacieuse, ma soeur, si tu n'as pas de l'audace, tu ne verras rien. Tu dois oser quelque chose, mais tu as peur de faire parce que tu as peur d'échouer. Tu as peur d'essayer parce que tu n'as même pas d'idée en fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut essayer. Ok? Alors, comment ça fonctionne? Comment savoir ce que je dois faire? Comment savoir ce que je dois essayer? Comment ça marche? 16 manières de penser. La différence, comme je le fais comprendre, vient dans la façon de penser. Parce que la pensée précède l'action. Amen. Et il y a aussi différentes formes d'audace. Il y a aussi différentes formes d'audace, différents risques qu'on prend. Mais il y a certains qui ne sont pas divins. Il y en a d'autres qui sont inspirés par le diable. Moi, je vous parle de l'audace divine, oser selon Dieu. David, le roi David, a eu à expérimenter cela. Il a été audacieux une fois. Il voulait faire monter l'arche. Ça lui a valu un mort. Mais il a réfléchi. Par contre, de temps en temps, il a pris la bonne audace, la bonne initiative. Comment avoir l'audace divine? Comment est-ce que ça fonctionne? Dis avec moi, comment? Non, demandez-moi bien comment. Ok. Je vais citer rapidement les 16. Et puis on va aborder deux points. Premier point, oser rêver. Tu veux être audacieux, tu veux manifester l'audace de Dieu. Il faut oser rêver. Beaucoup de gens refusent même de rêver. Ils sont trop pragmatiques et trop concrets. Donc ils ne peuvent pas expérimenter quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Vous allez voir combien de fois tuer un rêve tue l'audace. Amen. Deuxièmement, oser faire différemment. Non pas, bon, le truc, c'est non pas par orgueil et révolte, mais par esprit d'amélioration. Troisièmement, apprendre, ou bien apprenez à voir des opportunités et non des problèmes. Quatrièmement, revisitez vos croyances et soumettez-les à Christ. Cinquièmement, je vais vite. Quatrième. Mais on va aborder, là je cite comme ça. Hein. Revisitez vos croyances et soumettez-les à Christ. Voilà. Hein? Ça, ça parle de ta manière, ta façon de croire. Tu crois en quoi? Vous savez, tu es, la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. On voit tous le monde d'une certaine façon. On voit tous les mêmes choses, physiquement. Mais nos croyances influencent notre vision. Nos croyances, c'est pas vrai? Voilà. Ce que tu crois, là, ce en quoi tu crois, influence énormément ce que tu vois à l'intérieur. Amen. On va voir aussi ces choses-là. Cinquièmement, créez autour de vous un environnement qui vous donne des challenges purs. Amen. Créez autour de vous. Ok. Sixièmement, bon, là, on va parler dans le cinquièmement là, de l'environnement, des choses que tu entends. On va parler même de... Là, on va toucher tes amis, tes parents, ta famille. Tu vas comprendre, tu vas voir que, au départ, les premières personnes qui ne croient pas en ton don, ce sont tes proches. Si tu restes au niveau des proches, ton don va mourir avec toi. Les premières personnes qui ne croiront pas en ton don, ce sont tes parents. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est une étape importante. Si tu n'arrives pas à passer cette étape, Marie et ses frères sont venus voir Jésus. Jésus a dit, ma mère, mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la saisissent, qui la comprennent. Amen. Alléluia. On va, pour illustrer tout ça, on va prendre un peu l'histoire de David. Vous allez comprendre. Ça ne veut pas dire de ne pas honorer les parents. Ça veut dire que pour atteindre ton destin, tu dois oser quitter. Pas renier, mais quitter. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ton père et ta mère. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ton père et ta mère et va dans le territoire que je te montrerai. Tu dois quitter, tu dois te... Ton don, c'est ton futur. Tes parents, c'est d'où tu viens. Ils sont très importants, c'est la base, c'est le repère. Mais ce n'est pas là où tu finis. C'est là où tu as commencé, mais c'est pas, ta fin n'est pas là. La finalité, c'est devant. Demain, ils croiront en toi. Donc, tu dois te déplacer pour qu'ils te suivent, pour qu'ils suivent ton don. Amen. Vous ne pouvez pas avoir l'audace si vous fréquentez un certain nombre de personnes toujours. Quand vous voulez manifester l'audace divine, vous devez forcément créer autour de vous l'environnement dont vous avez besoin. Il y a un environnement où on ne peut pas être audacieux. C'est difficile. Donc, si tu écoutes toujours les personnes qui vont te ramener en arrière, ça sera compliqué. Amen. Les parents, on ne les choisit pas. Les amis, on les choisit. Donc, prends les amis de ton destin. Amen. On va étudier ça au cinquième point. Sixièmement, aimez surpasser vos limites. Aimez surpasser vos limites. Amen. On va prendre à élargir l'espace de l'attente. Il faut surpasser. Il faut aller au-delà. Des limites, de ce qu'on dit qui te limite. Amen. Septièmement, minimiser les conséquences de l'échec et magnifier les conséquences du succès. Ça veut dire, si je fais ce que ça va te donner comme résultat en bien, exalte cela, présente cela. Ne regarde pas trop et ne te focalise pas trop. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Amen, amen, amen. Et on va voir, parce que quand David, il est venu, il a vu Goliath, il dit, Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le tuer? Il n'a pas dit comment Goliath va tuer la personne qui l'attrape. En l'écrasant ou en... Donc il regardait ce que ça allait produire comme résultat et non ce qu'il aurait eu. Donc ceux qui ont de l'audace en fait sont des personnes qui se foutent dans leur pensée, qui regardent le résultat. Même si c'est minime, même si c'est tout petit, mais il prend le ce qui est bien, qui risque d'arriver là, et puis ils l'agrandissent. De sorte qu'ils ont l'impression qu'à un moment donné, dans leur pensée, qu'il n'y a pas d'autre possibilité que réussir. En ce moment-là, la force divine est en eux et ils vont réussir. Parce que tu vas avoir ce en quoi tu crois. Il te sera fait selon ta foi. Amen, amen, amen. On va apprendre à faire cela aussi. Il faut savoir, huitième point, apprécier les échecs et les obstacles. Tu veux savoir si tu vas connaître des échecs? Oui. Tu dois apprendre à essayer quelquefois plusieurs fois. Ceux qui ont l'audace, manifester l'audace, il faut apprendre à composer avec les revers de la vie. Il faut les mettre dans ton programme d'exécution. Amen. Amen. Je vous l'avais déjà dit. Mais apprécier les échecs et les obstacles. Quand tu as de l'audace, quand on te dit voici la montagne, tu apprends, on dit voilà la montagne, il faut que je l'affronte. Les peureux, ils fuient. La Bible dit le paresseux, il dit il y a un lion dehors et il ne sort pas. Et pour paraphraser encore, lorsqu'il va vouloir récolter, il n'aura rien. Amen. Accepter quelquefois qu'il faudrait essayer plusieurs fois avant d'avoir des résultats. Hein, c'est la suite logique du huitième point. Il vous faudra accepter que quelquefois, il faudra plusieurs essais avant d'avoir un résultat favorable. Amen. Triompher de l'esprit d'intimidation. Dixièmement, l'esprit d'intimidation. Là, je veux présenter les différentes formes d'intimidation. Comment le diable intimide? La stratégie de Satan pour tuer ton don, c'est l'intimidation. T'intimider. Et il y a diverses formes d'intimidation. Il y a le conformisme. Il y a les paroles des personnes. Ce que les gens disent autour de toi. Alléluia. Ainsi de suite. On en parlera. Onzième. Maintenant, on rentre maintenant dans le côté comment la base divine de l'audace, surtout. Ayez de l'audace dans votre relation avec Dieu. J'ai dit quelques mots là-dessus dimanche dernier. Ayez de l'audace dans votre relation avec Dieu. Douzièmement, triomphez de la religiosité. Treizième, ok, ayez de l'audace dans votre relation avec Dieu. Amen, ça veut dire, je l'expliquais la dernière fois, on va revenir là-dessus parce qu'on va apprendre à le développer. Pour avoir l'audace qui vient de Dieu, il faut dans votre relation avec Dieu faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Amen. Des choses bien, hein, pas des choses bizarres. Bon, on va voir ça aussi. Triompher de la religiosité, douzièmement. Treizième, comptez sur Dieu et non sur vos forces. Treizièmement, comptez sur Dieu et non sur vos forces. Quatorzième, n'agissez jamais pour prouver votre force et vos valeurs aux autres. Vous allez voir pourquoi on a séparé ces points et puis bon. Ça veut dire jamais rien. Parce qu'il y a des types d'audace qu'on a parce qu'on a envie de démontrer qu'on est quelqu'un d'important, qu'on est plus intelligent que l'autre, qu'on est plus fort que l'autre, qu'on a plein d'idées. Ça, c'est pas l'audace qui vient de Dieu. Ça, c'est l'orgueil de ce monde. C'est le désir de paraître. C'est de l'audace, mais c'est pas l'audace divine. Amen. Ok. Soyez humble et non entêté. Quinzième, soyez humble et non entêté. Et seizièmement, ne laissez pas les succès passés vous corrompre. Alléluia. Amen, amen. Alors, osez rêver en Dieu. Premier point, osez rêver en Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes fatigué? Osez rêver en Dieu. Alors, comment l'audace commence? L'audace, Les personnes qui arrivent à poser des actes, des actions d'audace, sont des personnes, comme je l'ai dit tantôt, qui ne pensent pas comme les autres. On va lire, mais notre texte de base, notre filon de base sera 1 Samuel 17 qui parle de l'histoire de David. David est l'exemple d'une personne qui a reçu un don de Dieu. Par l'imposition des mains, on lui a dit qu'il est le futur roi, qu'il est le roi d'Israël. Ses parents n'ont pas reconnu. Je vous ai dit tout à l'heure que les parents, la famille, ceux qui vous ont vu grandir, au départ, ne reconnaissent pas vos dons. Plus tard, ils vont les reconnaître. Plus tard, ils les reconnaîtront. Amen. Mais vous devez quand même commencer. Alléluia. David, regardez, un jeune homme. Le grand prophète Samuel vient pour le oint d'un roi. Après cela, ses parents ne font même pas une fête. Parce qu'ils ont dit, ce petit-là, est-ce que Samuel m'a bien prié? On vient vous dire que votre fils, qui est là, est le futur chef d'État de la Côte d'Ivoire. Dites-moi, si vous êtes père, est-ce que votre premier réflexe sera de dire à l'enfant, va nettoyer les toilettes là? On a ramené David derrière les moutons, le roi. Le roi. Et c'était derrière les moutons qu'il est parti voir ses frères. Ses frères l'ont vu sur le champ de bataille. Tu parles quoi? Quitte ici, prétentieux. Alléluia. Mais lorsque David va voir Goliath, vous voyez, il a dit cette phrase. On lui donne l'occasion de lui lire tous ces passages. Il a dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce Philistin? On lui a dit, non seulement on va affranchir sa famille, il va marier la fille du roi. Ah bon? La Bible dit qu'il est parti demander à une deuxième personne pour voir si c'était vrai. C'est quoi la stratégie de l'audace? L'audace commence toujours par une forme de rêve. Vous savez, comment pouvez-vous vous mettre en marche vers un domaine si vous ne donnez pas à votre esprit au moins l'espérance de voir cela se faire? Il faut rêver, dis un voisin, il faut rêver. Tu sais pourquoi tu ne sais pas quelque chose d'extraordinaire, d'excellent et d'inouï? Parce que tu n'as pas de rêve, tu es trop pragmatique. La réalité de la vie t'a intimidé. Tu ne te permets même pas d'avoir un petit rêve. Dieu fonctionne toujours à partir du rêve. Vous savez que l'audace, c'est une partie de la foi. Hébreux 11, 1 définit la foi ainsi. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. L'audace, là, c'est la partie démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Amen. Dans la foi a deux grands aspects. La ferme assurance de ce qu'on espère, virgule, démontrer ce qu'on n'a pas encore vu. C'est ça l'audace. Amen. Alléluia. Mais donc, l'audace commence par l'espérance, le rêve. Il faut rêver. Dis à un voisin, rêve, tu es trop pragmatique. Alléluia. Alléluia. Tu as à cœur, je ne sais pas, par exemple, d'aller, tu aurais souhaité, bon, je vais vous demander, qui aurait souhaité un jour dans sa vie aller visiter Honolulu, les belles îles, qui dans sa vie aurait souhaité ça? Vous savez, si vous ne prenez pas le temps d'abord de créer un rêve par rapport à quelque chose que vous souhaitez, vous n'allez jamais entreprendre la démarche pour. Je suis convaincu que quand vous regardez certains films, vous voyez peut-être les belles plages, les beaux endroits, quelque part dans votre âme, il y a un petit désir. Mais comme vous ne rêvez même pas, parce que ton cerveau te dit en même temps, mais comment cela se fera-t-il? Donc, en même temps, tu gommes ça de ta tête. Vous pensez que les personnes qui essaient d'aller en France, c'est de l'audace? Ce n'est pas de l'audace. Ils font comme tout le monde. Ce sont des suiveurs. Tout le monde tente d'aller en France, on tente. Ce n'est pas l'audace. Mais l'audace divine commence par le fait d'imaginer, de vous ouvrir, d'accepter l'éventualité d'un prodige, d'un miracle qui va vous faire réaliser certaines choses auxquelles vous rêvez. Vous espérez profondément. Ne tuez pas vos rêves.
La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Si Dieu a tout créé pour un but, pourquoi a-t-il créé les rêves? Ça sert à quoi? Juste à animer votre nuit pendant que vous dormez? Non, les rêves, les visions sont le départ des miracles. C'est le départ de votre destin. La Bible dit ceci, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. S'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi. Et l'espérance n'est rien d'autre qu'un rêve. C'est un rêve. C'est une manière de voir la chose. Comment ces personnes-là ont-ils... Pourquoi ils ont décidé de casser le toit? C'est parce qu'ils ont rêvé que leur camarade peut marcher. Mais si vous regardez la personne et que vous dites, mon ami, il ne faut même pas penser. Vous n'allez jamais essayer de casser le toit. Et le rêve, justement, c'est penser à une chose qui n'est pas logique. Tant que tu penses à une chose qu'on peut déduire logiquement, ce n'est pas un rêve. C'est-à-dire, je travaille bien, j'épargne tous les jours, dans 4 ans, je pourrai m'acheter ma maison. Ça, ce n'est pas de l'audace. Hein. C'est normal. Par contre, ce qui serait un rêve, c'est d'imaginer qu'avec le salaire que tu as, tu construises tout un quartier. Ça, tu commences à rêver. Alléluia. Et l'audace commence comme ça. Pourquoi vous n'avez pas d'audace? Parce que vous ne rêvez pas. Tu es trop pragmatique. Quand on dit, vous savez, la foule, ils ont regardé Goliath. Ils ont été concrets. Il est guerrier depuis son enfance. Voilà. Donc, n'imaginons même pas. Cherchons à voir comment on va fuir. Or, David, il voit ce qu'il y a derrière. Il voit le mariage. Ça fait une différence. Il rêve quelque chose qu'il n'a pas encore obtenu. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Dis à un voisin, il faut rêver. Tu ne rêves plus. Tu ne peux pas te mettre... Il faut rêver. Tu ne peux pas te mettre en train de commencer à poser les actes. Par exemple, aujourd'hui, tu as besoin d'une voiture pour faire ton boulot. Le travail que tu fais nécessite un véhicule. Mais quand tu regardes ton salaire de 60 000 francs, CFA, par mois, tu n'autorises même pas ton cerveau à rêver un véhicule. Oh, comment veux-tu que Dieu fasse le miracle si tu ne dessines pas, si tu n'as pas d'espérance? Car Dieu dit, si tu n'as pas la foi, ne t'imagine pas qu'il te donnera la moindre chose. Or, la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. C'est-à-dire, si tu n'espères pas, tu n'as rien. Donc, rêve avec tes 60 000 francs quand même, assieds-toi. Et puis, vois-toi dans une voiture, aller au travail. Mais tu t'interdis de rêver. Tu ne peux pas manifester l'audace ni poser les actions qui vont entraîner la venue de ta voiture. Tu n'imagines même pas que tu vas avoir un véhicule. Tu dis avec 60 000 francs, là. Comment on peut travailler? Comment on peut avoir une voiture? Comment se débrouiller? Et te voilà dans la vie. Normal comme tout le monde. Tu es là, tu marches des kilomètres à pied. Or, ça fait 4 ans, Dieu voulait que tu finisses cette affaire de marcher à pied et d'avoir un véhicule pour mieux travailler dans ta mission. Mais tu penses que tu es humble et que tu sers le Seigneur comme ça. Dieu a envie de venir te taper tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes quoi là? Et la foi et de l'audace. Et si tu commences comme ça, commence à rêver. Pourquoi Dieu va vouloir que toute ta vie, tu sois dans un endroit que tu es en train de payer en location constamment? Pourquoi? Pourquoi? Mais tu ne peux même pas te permettre d'imaginer que toi, un jour, tu seras propriétaire de plusieurs maisons. Tu ne donnes même pas cela à ton cerveau. Donc, tu vas jamais enclencher le processus de l'audace. Parce que tu n'oses pas rêver. Bouscule un voisin, dis rêve un peu quand même. Bon, mais je n'ai pas dit d'être des rêveurs. Les rêveurs, et d'hommes, ils vivent dans le rêve. Un jour. Non. L'audace, c'est l'action. Mais c'est une action qui est précédée d'un rêve. Amen. D'une espérance. Et c'est cette espérance-là qui va commencer à force d'y penser, ça va commencer à vous prédisposer, à disposer tout dans votre vie pour vous amener à l'atteindre. La Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui sont les sources de la vie. Or, garder le cœur, c'est garder les pensées. Dieu dit que tout ce qui t'arrive dans ta vie vient de tes pensées. Vos pensées créent. Donc, si je veux bouger selon Dieu, il faut que je rêve.
Amen.
Alléluia. Commence à rêver à l'orphelinat que tu vas construire, où tu vas faire rentrer tous les enfants de la rue. Commence à rêver à ça. Si tu ne rêves pas à ça, tu n'auras pas ça. Non, je ne demande pas tout le monde d'avoir des rêves égoïstes pour penser seulement à vous. Parce que le fruit de l'esprit, il est pour les autres. Un pommier ne mange pas la pomme. La pomme est toujours pour quelqu'un d'autre. Pas pour le pommier lui-même. Le fruit, quand vous le manifestez, il sert aux autres. Bien sûr, la sève coule en vous. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi le rêve. Le rêve est le départ de l'audace. Alléluia. Ceux qui osent sont des personnes qui ont eu des pensées différentes. Ceux qui n'osent jamais sont des personnes qui ne voient rien. Pourquoi la foule était assise là pendant que l'autre a cassé le toit? Parce que eux, ils attendent la vie seulement. Leur souhait, c'est le souhait le plus logique. Or, les rêves sont très souvent illogiques. C'est-à-dire, c'est pas normal. C'est pas dans le cours normal des choses. C'est ça le rêve. Sinon, c'est une en dehors de ça, c'est une déduction logique. Alléluia. 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 Maintenant, l'audace qui vient après le rêve. Vous voyez, l'audace, comme j'ai dit tantôt, c'est la partie démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Amen. Amen, amen. Je veux des bons amen. Amen. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Je vous ai dit que l'audace, en fait, ce n'est qu'une partie de la foi. L'audace commence par le rêve. Donc, le premier principe, autorisez-vous à rêver. Cette semaine, réapprenez à rêver. L'intimidation du diable consiste à tuer vos rêves. Quand tu commences à dire, un jour, je serai à Honolulu pour aider la terre. Le monde entier te fait comprendre comment toi qui habites dans tel quartier, tu peux te retrouver là-bas. On a un frère de l'église ici qui a suivi les enseignements que je donne. Est-ce que tu as une fois imaginé Papouasie? Ce frère, lorsqu'il arrivait à l'église, il ne travaillait pas aussi. Il n'avait pas de boulot. Il a suivi l'enseignement sur la foi. Et il s'est rendu compte qu'au fond de son cœur, il avait eu un rêve. Dans le passé, il voulait voyager beaucoup. Connaître différentes destinations. Et là, il s'est autorisé aussi à rêver à ça. Et subitement, les choses vont commencer à se concrétiser. Il met son CV sur Internet. Ce n'est pas les gens de la Côte d'Ivoire qui l'appellent. Dans le monde entier, on l'appelle. Jusqu'en Papouasie. Or, le diplôme qu'il a, d'autres personnes aussi l'ont. Mais on dit, il est la personne qu'il faut et il va se retrouver là-bas. Tout a commencé par le rêve. Si vous ne rêvez pas... Amen. Amen. Mais le rêve doit être concrétisé. Et l'audace, c'est la partie de la concrétisation du rêve. Je dois bouger par rapport à mon rêve. Alors, Hébreux chapitre 11, verset 1 dit ceci dans sa deuxième partie. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration, dis avec moi démonstration, de ce qu'on n'a pas encore vu. Tout ce qu'on va aborder après, ça touche un peu les aspects de la démonstration. Je l'ai expliqué déjà dans l'enseignement de la foi. Si vous voulez cela en détail, prenez les coffrets sur la foi. La foi, donc, c'est la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Ça signifie quoi? Qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Pour qu'on puisse parler de foi et d'audace, il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Ça veut dire que tu n'as pas encore touché, que tes cinq sens n'ont pas tenu, n'ont pas palpé. Il dit, avant que ça ne s'accomplisse dans le monde réel, il faut que tu démontres ce que tu n'as pas encore vu. Dis avec moi, démontrer ce que je n'ai pas encore vu. Dans le livre de Marc, il explique encore mieux. Il dit, quand tu pries, je paraphrase, crois que tu vas recevoir. Et puis il dit après, si tu crois que tu as déjà reçu, ça fait la différence. Dis avec moi, déjà reçu. Il dit, alors tu verras cela s'accomplir. Qu'est-ce que Jésus dit? Donc, pour voir ce à quoi je rêve s'accomplit dans le monde réel, la Bible dit, je dois arriver à un moment donné à croire que je l'ai déjà. C'est ce qu'il dit, je dois démontrer ce que je n'ai pas encore vu. Hébreux 11:1. Maintenant, si vous vous rappelez bien de mes enseignements, là je fais un rappel, un test. C'est quoi? Croire que je vais recevoir, c'est quoi? Ça, c'est l'espérance, non? Je crois que je vais recevoir une voiture. C'est de l'espérance, ok?
Je crois que je serai ceci, c'est de l'espérance. Maintenant, croire que j'ai déjà reçu. Quelle est la différence entre croire que j'ai déjà reçu et croire que je vais recevoir? Qu'est-ce qui fait la différence? Je vérifie que vous vous rappelez bien des messages. Quelle est la différence entre croire? Jésus dit de croire que tu as déjà reçu. Jésus dit, après avoir cru que tu vas recevoir, il faut croire que tu as déjà reçu. Quelle est la différence entre croire que je vais avoir la voiture et croire que j'ai déjà la voiture? Quelle est la différence entre croire que je vais me marier et croire que je suis déjà marié? Quelle est la différence entre croire que je vais travailler et croire que je travaille déjà? La démonstration, l'attitude, bon, acclamez pour vous-même. Amen. Donc, Jésus dit ceci, si je rêve à une chose, si j'espère à une chose, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'à un moment donné, j'arrive à croire que la chose est déjà là, que j'ai déjà ma voiture. Mais dans les deux cas, c'est juste encore la pensée. Parce que je n'ai pas encore la voiture, mais je crois que je l'ai. C'est dans ma tête. Et puis, c'est dans ma tête aussi de croire que je vais avoir. La seule différence est dans votre comportement. Terre à terre. Je prie pour avoir une voiture pour mon travail. Riandobo, Chatari de Bos, au nom de Jésus, je veux la voiture. Donc, j'espère avoir une voiture. Je rêve la voiture. Je vois une voiture. Par rapport au boulot que je fais, il me faut un 4x4. Oh, maintenant, comme je sais que je suis le fils, mais la fille préférée du Seigneur, je vais lui donner un peu la marque, quoi. Il dit, Seigneur, il me faut un 4x4. Mais si tu me donnes une ML, ça ne me déplairait pas. Pourquoi pas? Oh, si tu me donnes la dernière X6. Oh, je n'ai pas dit non, hein. Mais bon, si quelqu'un, il me faut juste un moteur. 4x4, c'est bon. Tu rêves, ok? Ah, c'est le rêve. Il faut te donner le droit de rêver. C'est important. Maintenant, après cela, il faut démontrer ce que tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu la voiture. Mais tu dois démontrer ce que tu n'as pas encore vu. Ça, c'est un exemple banal. Tous ceux qui ont des voitures, à peu près, pas tout le monde, mais c'est pour rire un peu, quoi. Ils ont des clés comme ça, là. Puis quand ils parlent, ils tournent ça dans leurs mains. Off, tu sais, la vue. C'est pas pour montrer qu'ils ont une voiture, quoi, mais il faut bien garder la clé. C'est pas pour frimer, hein. C'est pas pour frimer. Mais, ils tournent leur porte-clé, tu vois, la voiture. Bon, toi, tu as vu. Donc, tu crois que tu as déjà la voiture. Donc, la voiture n'est pas encore arrivée. Mais quand tu marches comme quelqu'un qui a une voiture. C'est-à-dire, tu démontres ce que tu n'as pas encore vu. Donc, tu marches comme un... Il y a une soeur qui dit, un quoi, voitureman. Bon, on va aller avec. Hein? Donc, tu marches comme ça. Non, il n'y a rien sur il n'y a pas de clé. Mais tu commences à tourner toi seul. Oui, les amis. Il n'y a rien. Mais tu démontres ce que tu n'as pas encore vu. Ça veut dire quoi? L'audace commence comment? Je ne suis pas encore marié. Mais je rêve que je vais me marier. Dans le présent, je me comporte comme une femme mariée. Pas comme une jeune fille. Alléluia. Ça, c'est là commence l'audace. Tu ne peux pas continuer à te comporter comme une fille qui n'est pas mariée et attendre que ton rêve arrive à la réalisation. Ça veut dire quoi? Une fille qui n'est pas mariée, elle va parler à ses copines jusqu'à 22h. Parce qu'elle n'a pas de mari pour l'attendre à la maison. C'est quoi? Comme tu pries pour ton mariage et que tu as rêvé un beau foyer, Dieu dit, il faut démontrer. Donc toi seul, il n'y a personne chez toi à la maison, mais quand tu vas te marier, tu sais que tu vas arriver vers 16h, 17h. Après ton boulot, 18h, tu es à la maison pour faire la cuisine. Il n'y a personne à la maison, ni bébé, ni mari. Mais à 18h, tes camarades t'appellent. Passe me voir. Non. Il faut que je dois rentrer. Toi seul, pour toi seul, tu fais la cuisine comme si ton mari était là. Tu démontres ce que tu n'as pas encore vu. Ça, c'est de l'audace. Essayez de se comporter comme si c'était déjà fait. Il dit, si tu demandes une chose à Dieu, crois que tu l'as déjà reçue. Alors, tu verras la chose s'accomplir. Alléluia. Alléluia.
C'est pour ça des hommes comme les Barack Obama sont devenus chefs d'État des États-Unis. Il a rêvé ce que personne ne voulait rêver. Prenons le temps de lire ses livres. Il a rêvé un noir à la présidence. C'est pour ça qu'il a osé. S'il n'y a pas de rêve, on n'ose rien. Pendant que tout le monde disait, on ne peut pas rêver ça, c'est impossible. Lui, il a rêvé. Et quand il s'est mis à rêver, il a commencé à se comporter comme un chef d'État. C'est pourquoi les hommes ont fouillé dans son dossier, on n'a vu aucune faille. Pourquoi? Parce que depuis qu'il était petit, il se comportait déjà comme un président. Il sait que pour être président aux États-Unis, si on t'a surpris en train d'être avec une femme dans le noir,
tu es grillé.
Donc, dans le présent, avant d'être chef d'État, il commence à vivre déjà comme un président. Il n'est pas encore président, mais il apprend à parler comme un chef d'État, à se comporter comme un chef d'État, sans l'être. C'est le début de l'audace. Est-ce que vous me suivez? L'audace, c'est d'abord un rêve que je commence à démontrer dans le présent. Je me comporte, je ne suis pas encore marié, mais je commence à parler maintenant comme une femme mariée. Je n'ai pas, les paroles des petites filles là. Non. Tu pries pour que Dieu te donne un mari, mais depuis là, tu te comportes en train d'un bébé. Dans ta tête, tu vois ton foyer. Dans ton comportement, tu te comportes comme tel. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ton rêve, c'est de bâtir une grande entreprise qui va être une bénédiction pour le monde entier. Commence avant d'être DG de cette boîte, marche aujourd'hui comme un DG. C'est simple. On ne sait pas, parce que quand tu vas voir ta société, tu es quelqu'un, comme c'est ta propre boîte, tu vas donner l'exemple à tes employés qui sera ponctuel, rigoureux dans le travail. Tu ne l'es pas encore. Mais parce que tu as vu, dans ton présent, tu commences à agir comme un directeur. Les gens te demandent, mais pourquoi? Oh mon frère, viens, on va s'amuser, viens, on fait ceci. Non, tu ne t'amuses plus comme ça. Comme tu sais que tu vas diriger une grosse boîte, tu commences déjà à lire les livres d'administration dans le présent avant de te trouver en train d'administrer une société. C'est dans le présent que tu commences à bosser les livres d'administration. Pourquoi? Et ça, c'est de l'audace. C'est oser quelque chose que les gens... On n'ose pas dans le désordre. On ose par rapport à un rêve. J'ai rêvé que je vais conduire telle boîte. J'ai rêvé que je vais avoir une famille. J'ai rêvé que j'aurai ceci. David a rêvé qu'il allait être roi. Samuel est venu lui dire, tu es le roi d'Israël. Lorsqu'il est arrivé devant Goliath, il s'est comporté comme le roi. Il a tué Goliath. C'est le rôle du roi de protéger le peuple. David a dit, voici la phrase qu'il a prononcée. À part que fera-t-on à celui-là? Il dit, quel est cet incirconcis? Je vais le tuer pour enlever l'opprobre au-dessus d'Israël. C'est le rôle du roi d'enlever l'opprobre. David n'était pas encore nommé roi, mais il avait l'attitude d'un roi. C'est ça l'audace. C'est cette audace-là. C'est cette manière de penser qui l'a amené à agir. Il a agi, il a pris ses responsabilités dans les actes avant que son rêve ne se réalise. Et c'est ce qui amène à oser. Sans rêve, pas d'audace. Alléluia. Dis, à celui qui peut faire.
À celui qui peut faire.
Par la puissance.
Par la puissance.
Qui agit en nous.
Qui agit en nous.
Infiniment.
Infiniment.
Au-delà de tout ce que
nous demandons ou pensons.
Amen. La Bible dit, Dieu peut tout faire, mais il le fait en passant par quoi? Par la puissance qui est en toi. Dieu ne fera jamais rien d'extraordinaire et de plus glorieux en dehors de toi. Le pasteur ne tient pas le miracle de ta destinée. La puissance qui agit en toi, dit elle est en moi. C'est par cette puissance que Dieu est capable de faire des choses infiniment grandes. Je reviendrai là-dessus dimanche prochain. Amen. Que Dieu vous bénisse et que cette parole porte du fruit dans vos cœurs. Dans le nom de Jésus. Alléluia. L'exercice de la semaine, on a encore d'autres points à toucher. Mais c'est rêver. L'audace. Le rêve, c'est le début. La possibilité d'imaginer des choses différentes. De voir des choses plus grandes. De voir des choses auxquelles votre condition actuelle ne donne pas droit. De pouvoir rêver quand tes diplômes, quand la formation que tu as reçue, bien, même, rien ne montre, n'indique
que tu peux être à ce poste. Être l'audace commence par le fait de dire, c'est vrai, mes parents ne m'ont pas conduit à l'école. C'est vrai, je n'ai pas fait d'études. Mais je me permets de voir que je dirige une entreprise. Que je dirige une boîte. Combien de personnes s'interdisent de rêver parce que dès qu'elles regardent leur diplôme, mon diplôme peut pas être directeur. Mes parents ne m'ont pas mené à l'école. À cause de ça, tu n'as pas rêvé? Dieu n'est-il pas le Dieu de l'impossible? Ceux qui peuvent être PDG ici, c'est forcément des personnes qui sont agrégées. Quoi? Veux-tu limiter Dieu? Commence à rêver. Commence à rêver. Exerce-toi. Regarde dans ta tête. Qu'est-ce qui te limite? Où limites-tu ta pensée?
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.